vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Bonsoir à toutes.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Et comme d'habitude, je vous propose de parcourir un peu l'agenda. Vous le savez, dans le thème geek et ludique, on va commencer par l'univers du jeu vidéo. On n'en a pas parlé la semaine dernière puisqu'on avait comme invité Sylvain Machen de Ludinor. D'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter l'émission sur le site de Radio Campus dans les podcasts ou sur notre site anotherpodcast.fr. Et du coup, on n'a pas pu parler de ces nominations qui ont eu lieu au Pégase. C'était le 17 mars 2021. Alors, à savoir que les Pégases, c'est organisé donc par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo.
C'est un petit peu les Césars du jeu vidéo.
Qui est là pour célébrer la production française du jeu vidéo exclusivement.
Alors, un des grands vainqueurs de la soirée des Pégases, c'est Haven. Alors, c'est une sorte de RPG aventure de réflexion avec un style graphique assez particulier et qui est assez sympathique.
Si vous aimez les dessins, oui, si vous aimez les dessins japonais, effectivement, je pense que vous allez tout de suite adhérer au type de jeu. Ça, c'est clair.
Ce qui est bien, c'est que c'est disponible sur toutes les plateformes, pratiquement. Switch, PlayStation, Xbox, Epic, Steam, il y a à peu près tout. À part sur mobile.
Dans les meilleurs jeux vidéo de ces récompenses françaises, on a Microsoft Flight Simulator qui a gagné.
Bah, je pense qu'on pensait peut-être tous un peu que le style de jeu, donc simulation d'avion, était, alors je ne vais pas dire mort, mais c'est quand même un public très restreint. Mais c'est vrai que là, cette version, surtout l'aspect graphique, hein, qui est absolument extraordinaire, a remis sur le dessus le jeu, et puis peut-être a fait découvrir à certains l'envie de devenir des pilotes d'aviation.
Bah, toutes les éditions, je trouvais qu'elles avaient, enfin, graphiquement, je trouvais que c'était très, très impressionnant. Alors maintenant, c'est parce qu'on a des écrans encore plus grands, on est encore plus exigeant. Je pense qu'aussi, en fait, le fait qu'on soit en confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pas pu voyager en vrai, donc du coup, ils ont testé de pouvoir voyager sur leur ordinateur.
Puis je pense que le fait d'acheter le fauteuil qui va bien, la manette qui va bien, bref, hein, tous les pédaliers, tout ça pour te croire comme un vrai pilote.
Il y a beaucoup de gens qui sont, ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à, c'est tellement détaillé dans les cartes, dans les détails, que il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à visiter leur région ou leur lieu de naissance, etc., pour essayer de retrouver, et effectivement, et de s'approcher le plus près possible. Et effectivement, on voit tellement de détails que c'est assez impressionnant.
C'est surtout une super performance technique et technologique.
Surtout que tu peux rajouter qu'il y a eu un mode VR qui a été mise à disposition, ou si tu as le casque adapté.
Mais en même temps, ça te. Le sac à vomi est fourni. Voilà. Il est fourni, le sac.
Mais déjà, tu as une très bonne sensation de jeu quand on aime ce type de jeu, mais là, quand tu rajoutes le fait que de pouvoir tourner la tête et que tu sois dans le cockpit de l'avion pour regarder les paysages, ou ne serait-ce que comment conduire ton avion, tu ressens d'autres sensations. C'est un prix qui est vraiment bien distribué.
Après, si on regarde le troisième jeu, qui a une récompense, qui est WRC 9, donc finalement, alors c'est plus des avions, ce coup-ci ce sont des voitures de rallye, on retombe un peu dans le même genre de jeu de simulation pour un public assez
c'est moins le côté simulation dans les jeux de rallye, c'est vraiment je pense que c'est plus que le côté action, quoi. Tu peux t'amuser avec ton avion à faire pareil que dans le rallye, mais bon. Et tu atterris sur les autoroutes pour voir si ça marche.
On est un peu plus compliqué, oui.
Ça devient tellement réaliste, Microsoft Flight Simulator, qu'il y a même des personnes qui ont fait un mode où lorsque vous passez au-dessus du canal de Suez, il y avait un bateau qui était bloqué carrément à l'intérieur.
Toute allusion avec un événement récent, bien sûr, ça aurait pu être coïncidence.
Ce qui est très bien, c'est qu'ils poussent la simulation tellement loin que la météo, que tu peux demander à avoir la météo en temps réel, donc tu peux simuler un vol complet en te basant sur la météo actuelle, enfin la vraie météo qu'il y a en ce moment.
Je ne connais pas en fait le niveau de compétence nécessaire pour jouer à ce type de jeu. Quand je dis compétence, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de pages de documentation à lire avant de réussir à être vraiment autonome, de pouvoir faire décoller, atterrir un avion.
Ce qui est bien justement dans cette édition, c'est que ça t'adapte à tous les niveaux. Tu peux dire, je sais même pas, démarrer un avion, oui, bien sûr, personne le sait forcément, mais tu peux t'adapter à tous les niveaux. Tu peux dire, je suis un expert, j'ai déjà 4000 heures de vol sur tous les types d'avions, ou au contraire, je fais à peine allumer mon ordinateur, et le logiciel va s'adapter à toi, et va t'apprendre.
Et il te dit du coup, il te dit pour quelle compagnie tu peux travailler du coup en fonction de ça, non, c'est ça ou...
Si t'as 4000 heures mais que tu sais pas allumer ton ordinateur, tu peux aller travailler pour Air France.
Je sais pas si c'est vraiment un marché qui recrute en ce moment l'aviation, mais bon, à vérifier. Hein. On peut noter comme autres jeux qui ont été nominés et qui ont reçu un prix dans le meilleur premier jeu vidéo, on a Shady Part of Me. Au-delà du jeu vidéo, c'est Tell Me Why.
C'est des catégories assez spéciales. Hein. Au-delà du jeu vidéo, on imagine que ça, oui, effectivement, c'est les jeux qui racontent un peu plus que juste t'amuser puis éteindre ta console. C'est que tu t'investis dans la vie des personnages, tu apprends des choses sur la vie, je sais pas, sur la nature, etc.
Et on peut noter également Street of Rage 4. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission, qui lui récolte plusieurs prix, dont le meilleur univers sonore.
On avait passé les musiques dans l'émission, donc c'est qu'on était, on avait bien deviné quoi.
J'ai cru que ça allait être pour son meilleur scénario, le jeu avec le meilleur scénario, mais je suis déçu.
C'est un très très bon scénario, Street of Rage, mais il n'est pas assez exploité.
Est-ce que c'est parce que Street of Rage a bien marché qu'on va avoir le droit à un nouveau beat'em all de Astérix et Obélix? Ou est-ce que c'est simplement à cause de la saga qui va être produite par Alain Chabat? On verra.
Un nouveau film avec GG?
C'est pas un film, ça sera une série.
C'est difficile. Ah mince. Il tombe dessus en ce moment, c'est difficile.
Zut. En plus, il est plus dans le coin puisqu'il a dû revendre sa maison en Belgique. Moi, j'aimerais bien une nouvelle série de gros GG, mais autour du monde en train de manger. Moi, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Alors, on continue dans...
Oui, non, parce que dans les récompenses, donc, ils ont aussi récompensé des jeux étrangers. Mais il y a aussi, ils ont décerné d'autres prix, la personnalité de l'année, normalement, qu'ils ont décerné à Zerator. Zerator, on en avait parlé, c'est l'organisateur de... C'est un streamer très connu de Montpellier.
Le Z-Event, la Trackmania Cup.
On avait suivi en direct les Z-Event, où ils avaient reconnu combien, plus de 4 millions, 6 millions d'euros cette année. C'est incroyable. Et ils ont décerné donc un Pégase d'honneur à Eric Chahi pour l'ensemble de sa carrière.
Car c'est un inventeur de jeux.
Oui, un créateur de jeux. Another World, Infernal Runner, etc. Enfin, tout ça, quoi. Il avait commencé sur Auric. Ses premiers jeux, c'était sur Auric, tu imagines.
Après, pour la cérémonie des Pégases, tu as potentiellement pas mal de jeux qui sont orientés Microsoft. Mais tu as aussi l'explication que sur le territoire français, il y a des marques comme Nintendo qui n'ont pas de studio en France. Et donc tu as sur cette liste de prix très peu de jeux Sony, Nintendo, Microsoft est particulièrement bien implanté.
Microsoft a racheté tellement de boîtes aussi maintenant. Alors, c'est un petit peu comme Asmodée dans le monde du jeu de plateau, on va dire.
Tout à fait.
Alors, Reynald, tu disais qu'il y avait ces grosses compagnies telles que Nintendo, Sega qui n'ont pas été citées. On peut dire que Sega, lui, a remporté le titre de meilleur éditeur pour l'année 2020. Tout ça, ça a été jugé par The Metacritics. Et c'est vrai que c'est assez rare que Sega remporte ce type de prix.
Sega qui était mourant il y a quelques années.
C'est ça, il reprend du poil de la bête. Alors, pas grâce à Sonic, hein, bien sûr.
Okay. Faut voir le film, s'il vous plaît.
Mais avec des jeux tels que Yakuza, Football Manager, Persona 4, voilà, ils reprennent un peu de poil de la bête et, bien sûr, les DLC de Total War.
Ah bah oui, c'est les éditeurs de les séries Total War et les Total War qui ne sont pas des jeux mais qui se ressentent sur une époque bien précise, sur un temps donné et qui brodent autour.
Alors je vous propose d'écouter un peu de musique. Alors d'habitude, on reçoit des albums à l'entrée de campus, alors c'est le cas aujourd'hui, mais d'habitude, il y en a certains, ils sont quand même recouverts de poussière. Et ici, c'est pas les albums qui sont recouverts de poussière, c'est un peu les artistes. Du coup, ben voilà, on est obligé de s'écouter ces nouveautés. Alors c'est un peu dans l'esprit rock et métal. Alors le premier groupe qui était en haut de la pile... et qui apparemment fait énormément plaisir à Dom, qui va enlever son casque pendant la pause musicale, c'est Evanescence. Ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas eu de nouvelles d'Evanescence.
Ça nous a pas manqué.
La chanson s'appelle Yeah Right, et de l'album qui s'appelle The Bitter Truth. I'm the widow, on the tippy topping of the highest high of low, and on the shadow. First little flower on the C'était Evanescence, je fais signe à Dom via la caméra pour qu'il puisse remettre son casque. Et ça, avec la chanson Yeah Right et de l'album The Bitter Truth. Allez, on va enchaîner avec les BAFTA. Alors, c'est également une cérémonie qui donne des récompenses dans l'univers du jeu vidéo. Alors, cette fois-ci, on n'a pas vraiment les mêmes jeux. Hein. On va plus partir sur des grosses licences puisque je vois qu'il y a du Nintendo, je vois qu'il y a également du Microsoft. Et il y a un jeu qui remporte plusieurs prix, on peut le nommer tout de suite, c'est The Last of Us, qui a sorti son deuxième opus. Alors comment décrire ce genre de jeu ? C'est un jeu un peu dark. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des zombies dans The Last of Us ?
Des infectés, plus.
Et on va suivre donc une jeune héroïne qui va avoir malheureusement des aventures un peu sinistres. Mais le réalisme du jeu a quand même plu à beaucoup de joueurs. Et notamment ici avec l'animation qui a été récompensée pour The Last of Us. Et une récompense aussi pour Laura Bailey en tant que performance dans le rôle principal ici.
On a même des récompenses aux acteurs des jeux vidéo, c'est très fort quand même. C'est pas que du doublage, hein, parce qu'il y a des fois des récompenses pour le doubleur, qui fait les gens qui font juste la voix, mais t'as aussi il y a de plus en plus de personnages qui sont animés par, je sais plus comment s'appelle le procédé, où un acteur se filme, on le filme avec des caméras, puis ça reproduit les mouvements, mais, et en plus il fait les voix, c'est impressionnant.
On avait Norman Reedus, de Walking Dead, qui avait fait un jeu, on a eu Keanu Reeves, pour cet excellent cyberpunk, qui n'a pas été nominé au BAFTA. Mais comment ça se fait tout ça ?
Alors les BAFTA, faut dire que là ce coup-ci, ce sont les Anglais qui décernent les prix, pas les Français.
Ils ont eu peur de se faire huer, peut-être. Est-ce qu'ils seraient allés sur scène? Enfin, il n'y avait personne sur scène, bien sûr, avec la distanciation, mais est-ce qu'ils seraient allés sur scène pour se faire insulter? Je ne sais pas.
Et il n'y a pas de catégorie le jeu le plus buggé, donc malheureusement.
Ah, ils pourraient. Hein. Parce que ça existe pour le cinéma, t'as les Oscars et puis t'as les Razzie Awards, si je ne dis pas de bêtises, où c'est une cérémonie où on se moque un peu et on décompense les plus mauvais acteurs, les plus mauvais films, etc. Donc on aurait pu faire la même chose pour le jeu vidéo.
Bah écoute, pourquoi ne pas mettre ça en place, hein? Pourquoi pas?
À noter, on retrouve dans les nommés pour le meilleur jeu, on trouve Animal Crossing, dont on a déjà parlé. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné. En tout cas, c'est amusant de voir quand même que les choix sont très larges.
Il a gagné un prix dans la catégorie Game Beyond Entertainment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au-delà du jeu, c'est pas que du jeu vidéo. Effectivement, c'est pas étonnant parce que il a vraiment dépassé le monde du jeu vidéo parce qu'il y a énormément de consoles qui se sont vendues et de gens qui y ont joué, même qu'il y a des gens qui n'étaient pas joueurs à la base, notamment des streamers qui ont profité du jeu lui-même pour faire des streams ou des chaînes YouTube, des émissions de télé, on peut presque le dire, dans le jeu vidéo lui-même, en recevant des invités qui aient même été chez eux sur leur jeu vidéo. Et au lieu d'être sur le même plateau, ils étaient dans le même jeu et ils animaient leur émission dans le jeu sur Animal Crossing.
En plus, le jeu, il est sorti... au début du premier confinement. Ah ouais, et ça a permis aux gens de rester connectés avec d'autres personnes ou de pouvoir s'échapper à ce moment-là.
Non. Et c'est un jeu familial en plus, c'est pas un jeu de violent ni quoi que ce soit où tu peux t'amuser de 7 à 77 ans comme on dit.
Et pourtant tu as des personnes qui vont farmer le jeu, qui vont poncer, qui vont au lieu de s'amuser, vont essayer de faire le maximum de choses pour être complétiste à 100%, enfin. Mais ça, à ce moment-là, il est sorti au bon moment. Les gens l'ont acheté pour pouvoir continuer à jouer avec leurs amis, pouvoir rester en contact avec leurs amis. Tu ne pouvais pas mieux tomber.
Bah, il est meilleur jeu multiplayer également. Alors, à ne pas confondre avec Haven, on a Hades, qui est un Diablo-like ultra bourrin, sur un style un peu
ouais,
de manga.
Ça, c'est un jeu
Hack and Slash.
Un roguelike. Un roguelike, c'est-à-dire c'est un jeu où tu essaies de faire un parcours, de parcourir un donjon, on va dire, etc., de vivre, mais tu vas mourir forcément, tu vas rater, mais tu vas gagner de l'expérience, tu vas gagner des pouvoirs, tu vas t'améliorer, tu vas gagner des armes, et à chaque fois tu recommences, tu essaies d'aller de plus en plus loin à chaque fois.
Et ça, c'est quand même un concept génial pour quand t'as pas trop de moyens pour faire un jeu vidéo, mais que t'as envie qu'il dure longtemps.
Il y a énormément de jeux dans le genre. Le roguelike, c'est l'un du type de jeu vidéo qui s'est le plus développé dans les derniers mois, dernières années, quoi. Celui-là, je l'ai testé, il est vraiment, effectivement, il a gagné en Artistic Achievement, donc je sais pas comment on pourrait traduire ça. Meilleur jeu, tout court.
En game design.
J'avoue que quand tu fais l'histoire, les voix, les musiques, pour un petit jeu, c'est vraiment impressionnant.
Après, à noter quand même que donc ceux qui ont fait ce jeu, ce sont aussi ceux qui ont fait le jeu Bastion ou Transistor aussi. Donc on retrouve un peu la même patte graphique. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ces deux jeux.
Quoi d'autre en jeu? On a Sackboy, un jeu d'aventure. Alors ici, c'est pas un Diablo-like, c'est un Mario-like.
C'est ça, c'est un petit personnage en sac à patates, je sais pas, animé, qui existait déjà depuis la PlayStation 3, si j'ai pas de bêtises, dans le jeu Little Big Planet et Little Big Planet 2, etc., qui avait cartonné à l'époque, parce que c'était un petit jeu multiplayer, une espèce de Mario-like, c'est ça, un petit jeu de plateforme, avec la particularité, c'est qu'il y avait un éditeur à l'intérieur, hein, tu pouvais créer tes propres courses, tes propres niveaux, etc., et les soumettre au monde entier, et il y en avait des milliers, voire des millions, ça avait super bien marché. Et là, donc, c'est un des premiers jeux sur PS5, mais il n'y a pas ce côté création. C'est un peu dommage.
Beaucoup de joueurs se sont demandé, en achetant le jeu, bah, il est où ce mode éditeur? Et non, pas de bol, puisque l'équipe qui a produit Sackboy a décidé un peu de changer de direction et de partir plus sur l'aventure pré-réalisée, qui fait que vous ne pourrez pas créer vos propres niveaux. Quel dommage. Le jeu est disponible sur PS5, hein, je pense, donc il ne doit pas avoir beaucoup de personnes qui puissent y jouer pour le moment.
Oui, mais c'est des jurés qui votent, donc c'est pas sur le vote du public, sinon effectivement, quoique je ne sais pas comment ils en ont vendu déjà. Mais...
Franchement, il est très très beau, Sackboy, ça donne vraiment envie d'y jouer, puis ça change de jouer à Mario, justement, d'avoir un autre personnage comme ça. On peut clôturer avec Sea of Thieves, qui va gagner le prix du jeu le plus évolutif. Alors, c'est bizarre, puisque dans ces jeux qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est pas forcément des jeux de cette année, mais c'est des jeux qui cartonnent encore aujourd'hui.
Ce qu'ils appellent la catégorie Evolving Game, c'est les jeux qui sont qui sont toujours en évolution, quoi, avec des, que ce soit avec des extensions, etc. Souvent, c'est des jeux multiplayer de style MMO. Hein. Bon, dedans, on retrouve Fortnite. Effectivement, Fortnite existe depuis très longtemps, mais il est toujours en développement. C'est un jeu qui est toujours, qui a toujours des nouveaux joueurs et des nouvelles, enfin, des nouveautés à l'intérieur. Quoi.
C'est le genre de jeu où tu retrouves des saisons tous les 6 mois, tous les 3 mois, qui permettent aux joueurs de toujours avoir quelque chose à faire ou à découvrir.
Peut-être même, alors il n'est pas dans les mini-mais, on aurait pu y retrouver World of Warcraft même, pourquoi pas.
Alors,
c'est encore une extension qui doit sortir, là, je crois.
Mais ce qui m'étonne avec la majorité de ces jeux, c'est que tu cites World of Warcraft qui est un jeu avec abonnement. Donc, implicitement, tu t'attends à toujours avoir des nouveautés puisque tu payes tous les mois.
Ouais, tu payes aussi pour le support, le fait que voilà, tu as des gens qui sont payés pour te dépanner si tu as un problème, etc. Donc, il n'y a pas que
les jeux ont un peu ça.
L'évolution, non, parce que les extensions, tu les payes en plus. Donc, ce n'est pas l'abonnement qui vient là-dedans.
Ce que je veux dire, c'est que tu t'attends que ces jeux ont une évolution, alors que des jeux comme Sea of Thieves sont des jeux one-shot. Tu l'achètes une fois, tu y joues gratuitement à vie.
C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux acheter dedans quand même?
Bien sûr, de la cosmétique.
Ah, voilà, tu as acheté des habits quand même. Voilà.
Il y a pas de pay to win. Tu t'habilles pour te décorer un peu à la Fortnite. Tu ne vas pas avoir de nouvelles armes. Mais c'est incroyable de voir que ils font autant d'améliorations du jeu pour un jeu qui n'a pas d'abonnement. Et c'est assez surprenant, je trouve.
C'est
à féliciter quand même.
C'est pas le seul, oui. Par exemple, dans le même genre, on pourrait citer Guild Wars 2, qui est un jeu, tu l'achètes. Et après, c'est tout. Tu payes que quand il y a des extensions, c'est tout.
C'est un modèle économique, après.
Voilà, tu peux acheter éventuellement des skins, etc. Mais c'est tout. Ils ont une grosse équipe derrière de développement qu'il faut, faut les nourrir, ces gens-là. Quoi.
Je félicite Rare là-dessus, moi.
C'est le développement et la mise en place de ce que tu avais sur mobile, des petites microtransactions que tu retrouves sur PC.
Peut-être qu'on doit aussi revendre les données, parce que le jeu analyse ton PC, regarde ce que tu as comme logiciel installé, fouille tes mails, et puis peut-être qu'ils revendent les données derrière en douce avec des hackers chinois, on ne sait pas.
Tu veux dire comme une application de Google?
Non. Par exemple.
Impossible. Allez, je vous propose d'enchaîner encore en musique. Alors.
Allez, moi j'aime beaucoup Ringo.
Allez.
Alors Ringo Starr, je compète quand même, je vais dire son nom de famille complet, parce qu'autrement on pourrait se tromper. Mais du coup, je te laisse présenter l'album peut-être, François. Effectivement, on enlève la poussière, c'est un peu ça.
Alors effectivement, membre des Beatles, est-ce qu'il a encore besoin de préciser? Alors est-ce que vous savez pourquoi, parce qu'à la base, les Beatles avaient un autre batteur, pourquoi est-ce qu'ils ont engagé Ringo Starr? Alors tout simplement parce que le batteur était un peu trop beau par rapport aux autres membres du groupe et qu'il faisait un peu de l'ombre. Du coup, ils ont décidé d'engager un autre batteur avec un physique un peu plus ingrat. Alors pour le coup, il avait un gros nez, Ringo Starr. Ça lui a bien servi puisque à l'heure d'aujourd'hui, il est dans les plus grandes célébrités et il doit avoir une belle maison avec beaucoup d'argent qui doivent tomber tous les mois. Un peu comme le reste des Beatles.
Je crois qu'ils n'ont plus les droits de leur chanson. Justement, c'est pour ça qu'il est obligé maintenant de refaire de la musique.
Ah, alors Ringo Starr a quand même sorti quelque chose de son chapeau. Alors, il a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Il ne va pas faire un album, non. Il va faire un EP. Il va faire un EP. Donc un EP, c'est juste 2-3 chansons.
Un vinyle ?
Bon, à mon avis, bien sûr qu'il vendra un petit vinyle. Hein. Il n'y aura pas de face B sur celui-là, apparemment. Et il a décidé de faire un album joyeux, puisqu'il trouve que tout le monde est un peu triste en ce moment. Donc il veut vous faire sourire, il veut vous ramener la joie dans vos domiciles. Alors, ici, c'est un single qui s'appelle « Zoom In, Zoom Out ». And there'd be dragons off the edge of the map. To Galileo put on his thinking cap. Change things forever. It's just a dot for an astronaut. There's a whole universe in one raindrop. Or a single bottle of soda pop. We're all in this together. Star is reachable.
is hard to overcome. Step by step is how you get it done. One day you'll be laughing. A wealthy man from way up high. A homeless child with a cardboard sky. If we could only see through each other's eyes, imagine what could happen. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. Shift your paradigm. Seek and you will find the end of your nose is infinity.
Voilà, c'était l'album de Ringo Starr avec 5 nouvelles chansons, dont celle-ci qu'on vient d'écouter, Zoom In, Zoom Out.
On voit qu'il a toujours un bon petit carnet d'adresses, parce que parmi les gens qui sont venus lui filer un coup de main, filer un coup de guitare ou de voix, je ne sais pas. Bon, ah, bien sûr, il y a Paul McCartney, forcément. Hein. Il y a même, on retrouve Dave Grohl, on trouve Lenny Kravitz, ce genre de personnes.
Ben Harper.
Voilà. La liste, pour 5 morceaux, il y a au moins 50 noms. Donc,
Alors, c'est sympa parce que lui, il appelle des gens, mais jamais personne ne l'appelle Ringo Starr. Mais bon.
Il est trop occupé, ils le savent.
On peut noter dans l'agenda un bar à jeux qui est actuellement en financement participatif.
J'en avais parlé quand j'étais allé au salon d'Amiens, je les avais rencontrés, c'est des gens qui voulaient ouvrir un bar à jeux, c'est ça, et ils cherchaient un emplacement, et ça y est, ils l'ont trouvé pendant leur campagne Ulule, donc ils ont lancé leur campagne Ulule le 22 mars, si je baptise, il reste encore 38 jours, donc oui, vous avez le temps, mais ils ont déjà rempli l'objectif de 2000 euros, puisqu'ils sont remplis de 3000 euros. Pour l'instant, le lieu est encore secret, mais j'imagine qu'au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, on en saura plus. Donc c'est sur Ulule, ça s'appelle Les Dés plus loin raisonnable.
J'aime beaucoup le nom du bar.
Alors, vous pouvez toujours backer et vous serez invité à tester les jeux avec l'équipe. Vous aurez un verre à graver, des invitations, des remerciements.
Oh, j'ai déjà mon gobelet en plastique à l'effigie. Je l'avais récupéré à ce moment-là. Il prévoit même de faire des soirées dégustation, des soirées jeux œnologie. Tu testes des jeux et des vins.
En fait, ce qu'ils disent bien, c'est que le projet est déjà lancé depuis plus d'un an. Le financement, c'est bon. Alors, pour mieux connaître aussi les attentes du futur public, mais d'avoir une meilleure ludothèque, donc plus de jeux, puis d'avoir un peu l'avis du public, construire du coup une bibliothèque de jeux qui...
C'est une très bonne utilisation du financement. C'est se faire connaître, ça sert à ça. La preuve, on en parle. Hein. Puis ça permet d'avoir à un endroit toutes les informations. Il n'y a peut-être même pas encore de site internet, mais ça sert de dépôt, et se faire connaître, et puis effectivement connaître, fidéliser un peu les gens.
Alors on clôture cet agenda, et une petite news qui a été dégotée par Pierre-Yves, et cette fois-ci qui est liée aux jeux vidéo. On part au Japon ici, puisqu'un patron a offert une journée de congé à ses employés.
Alors, déjà de 1 au Japon, ça arrive pas souvent d'offrir un jour de congé.
En fait, voilà. Oui, quand les salariés ont un jour de congé, ils n'osent pas le prendre. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai découvert que finalement, au Japon, les salariés avaient environ une trentaine de jours de congé par an, mais qu'en moyenne, ils en prenaient allez, 8 ou 9 seulement. Donc c'est vrai que c'est surprenant que le patron offre comme ça un jour de congé.
Alors peut-être qu'il s'est dit qu'ils n'allaient pas le prendre.
Mais il s'est dit aussi psychologiquement, plutôt que les gens finalement ne puissent pas y jouer, il s'est dit « je vais leur donner une journée ». Comme ça, ils pourront en profiter, bien s'amuser. Et puis après.
C'est surtout, à mon avis, que là, on parle d'une extension pour le jeu Monster Hunter. Le jeu, il est sorti il y a quoi, 1-2 ans peut-être. Je pense qu'à l'époque où le jeu était sorti, sur la nouvelle, enfin le nouveau jeu était sorti, tous ses employés ont pris des congés maladie, etc. Ils s'est dit ouais, la prochaine fois, je me ferai pas avoir. Je leur donne directement le jour de congé. Ça sera plus tranquille.
Ouais, tu vois aussi qu'au Japon, c'est très mal vu, par exemple, de partir avant son boss ou. Comme ça, ou ne serait-ce que de prendre un jour de congé parce que les autres travaillent et donc t'as l'impression de mettre à mal la société pour laquelle tu travailles, ne serait-ce que pour son image ou pour sa production. Et donc là, le patron a dû se dire, au lieu que mes employés viennent, ne pensent qu'à jouer, bâclent le travail ou le font mal parce qu'ils sont la tête ailleurs, etc., je leur donne leur journée et après, comme ça, ils reviendront, ils seront libérés de ce jeu. Et 100% sur le travail.
Alors, à noter quand même que les salariés donc, font partie d'un studio de réalité virtuelle. Donc, on voit quand même le lien avec le jeu vidéo. Donc, ce n'est pas non plus n'importe quelle entreprise dans laquelle le patron donne un jour de congé.
Alors, à savoir que Monster Hunter Rise a cartonné sur Switch avec plus de 4 millions de copies vendues. Alors, à l'heure actuelle, vu que l'émission est enregistrée, on doit en avoir beaucoup plus. Ils ont quand même essayé d'être dans la mode du moment, puisqu'ils se sont dit, tiens, si on faisait comme Cyberpunk, un petit bug qui faisait planter les sauvegardes. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Alors attention, c'est très fort. Lorsque tu gagnais, alors ici c'était l'action de la victoire, donc tu le vois en train de célébrer la victoire. Lorsque tu prenais cette emote et que tu la mettais dans ta barre d'action et que tu quittais le jeu, tu ne pouvais plus recharger ta sauvegarde.
Un peu embêtant.
T'étais forcément perdant en fait.
Assez sympa. Alors, c'est vrai que, bon, Monster Rise, alors ici, vous allez taper du gros mob, hein. C'est un peu le but du jeu. Et cette mise à jour, effectivement, rapporte beaucoup de contenu qui plaît aux gens. Alors, ça, c'est pas étonnant qu'au Japon, y a des gens qui sont prêts à se réserver une journée. Je pense que c'est surtout le patron qui voulait se réserver une journée pour jouer. Hein.
Mais il n'en a pas profité. Lui-même, c'est ce qu'il dit dans l'article. Après, je ne sais pas, mais il n'en a pas profité. Après, peut-être qu'il ne voulait pas voir les salariés et que lui, en fait, il allait dans son entreprise et il a joué toute la journée sans rien dire. Mais ça,
ou il a joué toute la nuit et il s'est endormi dans l'entreprise le lendemain.
C'est possible.
Alors, un autre extrait musical. Alors, on a passé magnifique Evanescence, l'incroyable Ringo Starr qui est en pleine joie. On va s'écouter un peu de Rob Zombie. Alors, je pensais que Rob Zombie, ça faisait longtemps qu'on n'en entendait pas parler. Il se trouve que si, il sort quand même un album tous les 2-3 ans. C'est juste qu'il passe un peu en sous-marin. Voilà, c'est des albums qui sont waterproof parce qu'il passe sous l'eau. Je vous propose d'écouter The Ballad of the Sleazy Rider pour ce nouvel album de Rob Zombie.
And they can tell us we're crazy. And we can say, well, you haven't seen anything yet. Faith.
C'était Rob Zombie avec The Ballad of the Sleazy Rider pour ce nouvel album qui s'appelle The Lunar Injection Cool Head Eclipse Conspiracy.
Tu peux répéter, j'ai pas compris.
Non, je ne le dirai pas. Bon, c'est du bon Rob Zombie ici. Voilà.
Rien de nouveau, quoi.
On va partir dans la mode. Et oui, c'est un sujet qu'on n'entame pas souvent, dans, heureusement, en France. Sur Radio Campus, en plus.
Nous sommes des spécialistes, hein, il faut le dire.
Et on va vous parler ici de mode virtuel. Alors on va citer, hein, je suis désolé, une grande marque. C'est Gucci qui va proposer des chaussures à 13 euros. Vous allez me dire, mais c'est un prix qui ne correspond pas vraiment à la gamme qu'il propose d'habitude. Mais ce sont des chaussures virtuelles. Alors, est-ce que vous avez suivi un peu cette mode ? Alors, je vais lancer un gros sujet qu'on détaillera forcément un jour dans une autre émission. Est-ce que vous avez suivi un peu cette folie des NFT ?
Non. Les non-float tickets, un truc comme ça.
Token. Voilà. Les certificats numériques et compagnie, non ?
En gros, c'est des tokens. Alors, qu'on pourrait pas dire ça ? C'est des objets virtuels, enfin virtuels ou pas d'ailleurs, qui sont rendus uniques.
La traduction. C'est jeton cryptographique non fongible.
Non fongible, voilà, c'est très joli. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends un objet, enfin, j'écris un poème sur un bout de papier et je le vends à quelqu'un parce que c'est une œuvre que j'ai créée. Mais qu'est-ce qui m'empêche de réécrire le poème sur une autre feuille de papier identique, avec le même stylo, etc., et de le donner et de le revendre à quelqu'un d'autre, après tout? Ben, pour empêcher ça, justement, la première fois que j'écris mon poème sur un bout de papier, eh ben, imaginons qu'on lui applique un traitement, etc., enfin, je sais pas, avec un filigrane, ce genre de choses, et ce qui fait que, il est forcément unique, il est pas reproductible, il est pas modifiable, ni quoi que ce soit.
Et tout ça est possible grâce à la blockchain, qui est un peu la base des crypto-monnaies aujourd'hui. Dès que des gens ont vu qu'on pouvait se faire de l'argent avec des NFT, je peux vous dire qu'on en a mangé à toutes les sauces et c'est pas fini.
Effectivement, le poème que j'ai écrit sur un bout de papier, c'est un vrai document. Quoi. Tu peux faire un tableau, une sculpture, n'importe quoi et la rendre unique. C'est un vrai objet, mais tu peux faire la même chose avec des objets complètement virtuels.
Donc on a eu des burgers, on va avoir des chansons uniques proposées par certains artistes.
On pourrait très bien enregistrer une émission sur Radio Campus, faire un podcast et le rendre complètement unique et le donner à un seul auditeur. C'est-à-dire que le premier auditeur qui l'écouterait l'aurait pour lui et personne d'autre ne pourrait l'écouter.
Mais notre émission est déjà unique.
Non, justement, ouais, mais elle n'est pas unique. Plusieurs personnes peuvent l'écouter. Mais écouter la même unique. Émission. Donc pour la rendre unique, il faudrait que chaque personne qui l'écoute ait, par exemple, n'ait pas les mêmes musiques, ou alors les musiques dans le désordre, ou écoute les mêmes sujets, mais pas dans le même ordre, ou que ça soit pas les mêmes intervenants. Tu écoutes les mêmes émissions, mais une fois Pierre est là, une fois il est pas là, une fois il est remplacé par quelqu'un d'autre, etc., tu vois. Alors que ça serait la même émission, le même numéro d'épisode. Un petit peu comme dans le jeu de société, avait fait Keyforge. Là, tu achetais un deck de cartes, et tu étais sûr que parmi les millions ou les milliards d'autres jeux de cartes du même jeu qui allait être produit, les autres seraient différents. Pas juste parce qu'ils seraient dans une autre langue, mais tu n'aurais pas les mêmes combinaisons de cartes, c'est assuré par un algorithme.
Et tu as un titre dans Keyforge, ton nom de personnage est unique.
Tout est vraiment unique. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui ont le même jeu.
Et, alors, et ça même suffit les cartes, ouais, ça suffit vraiment pour faire monter la valeur des objets. J'avoue avoir
c'est,
du mal.
Le but,
un
c'est
peu...
pas de faire monter la valeur des objets, c'est vraiment de les rendre différents. Mais si, bah, ça dépend, parce que si on parle d'œuvres d'art, justement, si je vends des poèmes, si tu sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même le tableau que j'ai peint ou le poème que j'ai écrit ou je ne sais quoi, tu vas forcément pas avoir envie de le payer. Tandis que si tu sais que tu es le seul, tu as l'exclusivité à la main, eh ben, c'est, tu peux faire monter le prix. Surtout qu'éventuellement, tu pourras le revendre plus tard. Il y a ce côté-là.
Après, c'est vrai que pouvoir avoir des Gucci pour 13 euros, c'est intéressant.
Tout dépend où tu vas les utiliser, c'est ça. Les Gucci virtuels. Est-ce que justement, on parlait tout à l'heure, je sais pas, de World of Warcraft, eh ben, est-ce que je peux utiliser mes Gucci virtuels pour les mettre sur mon personnage de World of Warcraft? Je suis pas sûr que les développeurs du jeu soient très contents. Mais pourquoi pas? En payant suffisamment cher, ils pourraient te l'accorder.
Et François, tu le sais pas, mais en fait, tu roules dans une Porsche. T'es pas au courant, mais regarde.
Moi, c'est déjà le cas. Après, on va parler de lunettes de réalité augmentée. C'est déjà ce que je porte. Et effectivement, je roule dans une Tesla.
Alors... Excuse-moi, une Tesla, oui, bien sûr.
Enfin.
Si tu fermes les yeux, tu peux être dans n'importe quelle voiture. Bon, le problème, c'est que si tu fermes les yeux, tu vas pas être très longtemps dans ta voiture. Tu vas vite rentrer dans une autre.
Non, c'est la Tesla qui conduit, c'est bon.
Mais après, le fait de vendre déjà des objets virtuels, on parlait de skins tout à l'heure, de jeux gratuits où tu peux acheter des modèles, des vêtements, des armes, etc. C'est des objets virtuels. C'est une fois que tu désinstalles le jeu ou que les serveurs du jeu ne tournent plus, bah, on va pas te rembourser ton argent. T'en as profité, ok.
Imagine, parce que on parlait dans les éditions précédentes des jeux de foot où les gens achetaient des cartes à plus de 1000 euros. Mais imaginez si on leur vendait en leur disant vous serez le seul à avoir ce joueur avec ces stats-là.
T'imagines
le prix, à quel point il grimpe.
Le joueur le plus cher en ce moment, ça doit être Messi, Ronaldo, peut-être Mbappé, etc. Tu imagines que tu es le seul parmi tous les possesseurs de consoles, de jeux FIFA par exemple, dans le monde entier, à avoir le dernier FIFA, tu es le seul à pouvoir mettre Mbappé dans ton équipe. Et ben, imagine que ce droit, enfin ce personnage, tu peux un peu comme dans la réalité, tu peux le faire du mercato, tu peux le revendre à mi-saison à un autre club, tu le vendrais aux enchères. Waouh, t'aurais des millions de joueurs dans le monde qui voudraient avoir Mbappé, donc qui parieraient, qui essaieraient de gagner les enchères. Ça pourrait être intéressant.
On va terminer. Hein. Alors, comment ça marche ce système de chaussures ici à virtuel? Eh ben, vous allez filmer votre pied et grâce à la réalité augmentée. Je vous le donne en mille. Elles vont apparaître à la place de votre pied.
Elles vont apparaître sur tes lunettes à toi.
Ici, sur ton téléphone, en l'occurrence.
Ou peut-être les gens qui ont leur téléphone dans une soirée, qui ont installé la même application que toi, et qui peuvent voir les... Ça va être amusant, les futures soirées.
De toute façon, alors, on se dit, bah ouais, mais c'est pas terrible. Mais non, mais puisque dans les soirées d'aujourd'hui, tout le monde regarde son téléphone. Donc, le coup...
Et dans les prochaines soirées, tout le monde aura des lunettes virtuelles. Tout le monde verra les autres comme il veut.
Tout le monde a la tête penchée et regarde son smartphone. Donc, tout le monde verra les chaussures des autres en réalité virtuelle, en réalité augmentée.
Mais ça va être intéressant, effectivement. Quand tout le monde aura des lunettes en réalité augmentée, tu n'auras même plus besoin, de te maquiller. T'auras plus besoin de te faire, tu achèteras simplement des... Ou alors, tu changeras ton maquillage et tes habits dans l'ascenseur avant d'aller à la soirée. Ou en passant d'une soirée à une autre, tu pourras changer tes habits virtuellement. Mais toi, tu seras tout simplement avec un t-shirt et un jean, mais les gens qui vont devoir arriver, tu pourras porter soit un costume, un smoking ou un costume de clown, je sais pas quoi.
Après, quand on regarde les photos qui ont été prises, le fait de recoller la chaussure sur le pied marche plutôt bien. Au niveau des jonctions chaussures-pied, ça rend pas mal.
Des fois, tu vois que ça déborde quand même un peu.
Ouais, mais bon,
faut pas mettre un pantalon trop large.
Effectivement.
Et puis, on regarde les photos, elles sont quand même affreuses. Elles sont fluorescentes.
Alors voilà ce que je veux dire. Ce qui choque le plus, ce sont les couleurs des chaussures.
Bah, je veux dire, pour avoir des chaussures comme ça, va au bowling. Hein. Écoute.
Je m'attendais à avoir des chaussures Gucci. Hein. Mais non, là, c'est des chaussures basket fluo. Ok, mais ça me donne une idée. Enfin, effectivement, plus tard dans les quand tu vas regarder du sport à la télévision, il y a déjà des publicités en réalité augmentée qui apparaissent sur les écrans de pub, etc. Mais tu pourrais très bien imaginer qu'effectivement les athlètes que tu vois courir ou les footballeurs que tu vois courir auront la tenue que tu veux. Tu pourras les habiller comme tu veux. Si tu veux que ton équipe de foot, tu le veux la faire apparaître habillée en soldat ou en clown ou je ne sais quoi ou tout nu, pourquoi pas.
Ouais, le football féminin va remonter en flèche.
Exactement. Le point de vue marketing, ça peut être rigolo.
Par contre, d'après ce que je vois sur les photos, c'est quand même des malins parce que le logo Gucci, il est mis sur la semelle. Comme ça, t'es sûr de pas le voir.
Bah, moi, j'attends Lidl qui nous fasse la même avec ses, ouais, ses chaussures.
Ça avait bien marché. Mais il va y avoir tellement d'inventions. Enfin, on est vraiment qu'au début de ce genre de choses, hein, le mélange de la réalité et du virtuel. Ça, c'est super intéressant. Ça va pas toujours être de mon goût, mais ça va être super intéressant.
Alors, vu qu'on parle de réalité virtuelle, on parlait tout à l'heure de jeux vidéo avec Animal Crossing. Alors, il y a un jeu qui cartonne encore à l'heure actuelle, même s'il commence à dater, et même si ça devient difficile d'y jouer, c'est Pokémon Go.
Mais Pokémon a 25 ans cette année. On est en plein milieu de leur événement des 25 ans avec toute une série de concerts et les plus grandes vedettes.
Ah oui, pour le coup, on a été chercher les plus grandes vedettes. Ici, donc, la société, le studio Niantic, qui maintenant s'est spécialisé dans les jeux de réalité augmentée. Alors, on sait qu'il y a Pokémon Go qui fonctionne bien. Harry Potter Wizard Unit est également bien placé. Ingress Prime.
Bah, Ingress, c'est le premier jeu de Niantic, donc les développeurs. C'est leur tout premier jeu, j'avais testé.
C'est
donc
pas avec les portails.
C'est ça que tu dois défendre. Donc j'imagine que c'est la nouvelle version de leur jeu.
Ça fonctionne tellement bien qu'ils se sont dit, bah, mine de rien, la suite pour jouer à ces jeux vidéo, c'est forcément les lunettes à réalité augmentée.
Clairement. C'est peut-être, ils ont peut-être constaté qu'à force de regarder de se promener dans la rue avec les yeux sur le téléphone, il y avait des accidents. Donc, avec les lunettes, au moins, tu pourras te promener à peu près normalement en jouant à Pokémon Go et autres jeux.
On a Samsung qui se lance dans la réalité augmentée avec des lunettes. On a Apple. Et ici, même des sociétés de jeux vidéo. Alors, on a déjà des premières images des lunettes à réalité augmentée. Donc, ben, ça promet. Moi, je pense que d'ici... Allez, on va être sur les premières commercialisations cette année. Dans 2 ans, je pense que ça commence à s'étendre sur le marché.
Apple avait tenté l'expérience avec ses iGlass, Apple Glass, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, c'était un peu trop cher, c'était vraiment trop en avance à la limite, ça ne marchait pas encore bien. Mais effectivement, tous les gens s'y sont mis maintenant. Je pense que oui, après, dans combien de temps est-ce qu'on pourra remplacer nos téléphones? On n'aura que des lunettes et plus de téléphones. Ça va venir peut-être dans 5-10 ans peut-être.
Alors apparemment, Samsung aura 2 versions. Il y aura les Glass Light, donc le modèle un peu réduit, ou qui sera couplé à votre smartphone, qui vous permettra de regarder des vidéos, et les Glass tout court, qui auront du tout embarqué, un peu comme on a avec les Oculus Quest.
Pour l'instant, tu ne te promènes pas encore dans le métro avec tes Oculus sur les yeux. Ça fait un peu gros.
Ouais, et puis surtout parce que quand tu mets les caméras, tu ne vois pas grand-chose.
J'avoue.
C'est un peu embêtant. On est à un tournant de réalité augmentée, de réalité virtuelle.
Et le confinement a boosté en plus l'intérêt des gens pour ce genre de technologie. Le fait de pouvoir voyager, visiter des lieux sans sortir chez soi.
Le truc, après, tu as l'effet nouveau, c'est intéressant, mais très vite, ça retombe. Par contre, si tu arrives vraiment à montrer qu'ils sont utiles... qu'elles apportent quelque chose dans ta vie de tous les jours.
Là, pour le télétravail et compagnie, le fait de pouvoir travailler à distance, t'imagines ?
Ouais, c'est ça, ça va être comme d'habitude, tu vas avoir le côté militaire qui va prendre le dessus, après ça va être le côté professionnel, industriel.
En médecine, il y a des opérations qui se font à distance, où le chirurgien est à 10 000 km presque du patient, c'est impressionnant.
Et après, ça va se démocratiser et ça va arriver dans les foyers. Ça va suivre exactement le même profil de tous les objets high-tech qui sont sortis depuis une vingtaine, trentaine d'années.
Donc tu recevras dans un carton la machine qui va te découper pendant que le mec reste chez lui à t'ouvrir le bide. C'est pas mal, pourquoi pas. Alors, tu parles d'utilité, mais vu que Niantic, qui fait Pokémon Go, se lance dans la création de lunettes, Faut voir que l'utilité prend un sens assez large ici, puisque le jeu vidéo devient une raison de se mettre à la réalité augmentée, même si elle existe déjà, puisque si vous regardez bien, vous prenez votre smartphone dans Pokémon Go, vous pointez le décor que vous voyez en réel, et lui va faire apparaître un Pokémon. Vous avez l'impression en regardant votre smartphone qu'il est là. Ça, c'est le principe de base de la réalité augmentée. Est-ce que ce ne sera pas le jeu vidéo qui va plus la mettre en avant le côté professionnel ?
Ouais, comme souvent, hein. Le jeu vidéo en matière de technologie, c'est de là. Il y a beaucoup d'avancées technologiques qui viennent du monde du jeu vidéo, les cartes graphiques notamment, etc.
Alors, pour aller encore plus loin, on avait cité rapidement, alors ça c'est dans des vieilles émissions, des lentilles connectées Et apparemment, la start-up qui s'occupe de ça, alors la société c'est Mojo Vision, qui a fait un partenariat avec Manicon. Donc, on avait peu d'informations quant au développement, mais vu qu'ils créent un partenariat, on se dit bah, que, mine de rien, ils n'ont pas abandonné le projet. Donc, on risque bien d'avoir des lentilles avec un petit écran LED que vous allez apposer sur vos yeux. On est un peu dans la
L'écran,
science-fiction.
tout à l'heure, Rénal disait avoir l'écran à quelques centimètres de tes yeux, mais là, l'écran sera carrément sur l'œil. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un tout petit écran, enfin, c'est plus petit qu'un timbre, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ils ont une résolution de 14 000 pixels par pouce. C'est impressionnant. Alors que, bon, il donne un exemple de comparaison. Le dernier iPhone, le 11, si je ne dis pas de bêtises, il a un écran où la résolution, c'est à peine plus de 300 pixels par pouce. Et là, on est à 14 000. Je sais pas si la technologie est déjà là, mais.
Oh, est-ce que les gens sont vraiment prêts pour se mettre une lentille? Déjà des lunettes.
Oh, j'en connais.
Oh, des lentilles, oui, je pense.
On n'est pas tous adaptés pour les lentilles. Il y en a qui peuvent pas, qui rêveraient d'avoir des lentilles, mais qui ont les yeux trop secs ou autres, qui ne peuvent pas déjà mettre de lentilles de vue. Alors des lentilles avec high-tech et tout dedans, ça va être chaud.
Moi, j'attends, comme dans Cyberpunk, que tu fasses carrément un remplacement de l'œil. Hop, tu te mets un œil, c'est magnétique directement.
Bah oui, on est bête.
Alors, franchement,
Appelle Elon Musk, il va te faire ça dans 2 semaines. Pas de
j'attends soucis. des oreilles cybernétiques avec un filtre.
Alors,
Dès qu'il repère les premières notes d'Evanescence, hop, il coupe.
L'avantage de la lentille, quand même, c'est que si t'en veux pas, tu peux l'enlever et l'acheter. Hein, alors que l'œil
bionique. Là, faut pas te
le...
tromper. Faut pas la perdre, ta lentille. Là, ça risque d'être un peu cher.
On a cité Cyberpunk et on va rester dans l'univers de la mode pour quitter cette émission. On va parler d'une influenceuse qui s'appelle Tilly Loquet. Et on a pu voir ça dans l'émission Tracks, qui est
Tracks
diffusée
sur
sur
Arte,
Arte.
Effectivement. C'est très surprenant, ces images, parce que c'est une jeune femme très charmante. Je sais pas quel âge elle a. Je crois qu'elle est anglaise ou américaine, je ne sais plus trop, quoi. Elle a été amputée des bras, ou elle a perdu à la naissance. Et donc, elle a des bras électroniques, des prothèses. Mais elle les met en avant, quoi. Elle a un compte Instagram, etc. Et elle en a fait presque des objets de mode. Et c'est vraiment très surprenant. On la surnomme Iron Woman parce que vraiment c'est ce qui fait d'elle. Au lieu d'être un handicap, maintenant c'est presque un super pouvoir. C'est ses bras.
C'est ça. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur TikTok,
forcément.
Puisqu'elle
elle
fait
fait
des vidéos.
des vidéos, ouais, mais du maquillage, etc. Des chorégraphies que j'imagine personne d'autre ne peut faire. Je sais pas ce qu'elle peut faire avec ses bras, mais c'est trop fort. Jusqu'où on va, quoi.
C'est aussi là où on voit l'avancée de la technologie, ce qu'on arrive à faire. Enfin, c'est vrai que c'est extraordinaire.
On est vraiment
Et tant
dans
mieux.
Cyberpunk, quoi. C'est pas des effets spéciaux. La première fois que j'ai vu les images, j'ai cru que c'était des effets spéciaux ou des faux bras. Mais non, c'est vraiment la technologie qui est à notre disposition maintenant.
C'est ça, on en parle assez rarement de la technologie qui comble les handicaps. Surtout qu'on est inondé de technologies qui peuvent paraître un peu inutiles des fois. Mais c'est important de le souligner. On va se quitter avec une dernière petite news sur la musique. Alors, Lemmy de Motorhead nous a quittés, alors il y a de ça quelques années maintenant. Et
Oh, il nous avait quitté bien avant, je crois.
et comme dernière volonté, il avait demandé ben, que ses cendres soient placées dans des balles de pistolet. Et les personnes à qui étaient destinées ces balles les ont reçues ce mois-ci. Bon, alors ça a pris du temps à faire. Mais donc vous avez de magnifiques balles en argent avec le nom Lemmy qui
Mais
contiennent ces
c'était quoi le
cendres.
message? Parce qu'en général, quand tu envoies une balle à quelqu'un, surtout dans la mafia, etc., ça veut dire que tu veux sa mort, ou que tu le menaces. Là, ça veut dire quoi? Il aime bien les gens ou
Alors,
je sais pas.
il fallait les envoyer à ses proches quand même, pas à ses amis. Attention.
On va rendre hommage du coup à Lemmy Kilmister avec une petite chanson de Motorhead. Une préférence, Reynald?
Vu qu'il a décidé de se mettre ses cendres dans des balles qui correspondent à des armes, il me semble qu'il y a une chanson de Motorhead qui s'appelle I Am the Sword. Donc, ça restera dans le thème.
Voilà, c'était la fin de cette émission. Heureusement, en France, restez sur Radio Campus 106,6. On se retrouve la semaine prochaine et on vous quitte avec Motorhead, I Am the Sword. Salut!
Salut à
À
tous.
plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
the Moochie.